Avoigny. Cette semaine, Alban Penaranda rencontre Ariane Ascaride. Ce soir, Paris, le Conservatoire.
Ariane Ascaride, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons vu hier comment vous avez hérité de votre père votre goût du théâtre, de la comédie. Quand Ariane Ascaride se dit-elle « je serai comédienne » dès l'enfance, dès le moment où elle monte sur les planches avec son père pour des spectacles amateurs ?
Je me suis peut-être pas dit que je serais comédienne quand j'ai commencé à faire du théâtre avec mon père, mais par contre, je me suis dit « qu'est-ce que c'était épatant ?» Et qu'est-ce que c'était facile, surtout pour moi, simplement parce que je n'avais pas la conscience de ce que c'est vraiment que ce métier. Pour moi, c'était comme jouer dans la cour de la récréation, c'était exactement la même chose. Et j'étais, je vous assure, à cette époque-là, j'étais super bonne, mais vraiment, parce que je savais pas ce que je faisais. Donc il y a cette liberté qu'ont les enfants. Vous savez, bien souvent, quand les enfants jouent, derrière, vous, en tant que comédien, vous ramez, hein, parce qu'il faut être à la hauteur. Mais je me suis pas dit que je serais comédienne à ce moment-là. Mais par contre, je me suis rendu compte, peut-être, qu'on pouvait avoir plusieurs vies, qu'on pouvait faire plein de métiers. Moi, je voulais être missionnaire en Afrique ou homme grenouille. Il y avait des trucs comme ça que je voulais faire. Et je me disais, mais comment on peut faire? On peut pas avoir plusieurs vies. Il faut que je trouve une solution. Et puis,
cette période de spectacle
de théâtre amateur ? J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 12 ans. À 10 ans, mon père m'a emmené passer le concours national du théâtre amateur avec un spectacle qui s'appelait L'ange et la souris, qui était l'histoire d'Abraham et d'Isaac, et je jouais encore un garçon. Et j'ai gagné le prix d'interprétation. Avec, je me rappellerai toujours, c'était un jury avec que des très vieux monsieur qui, parce que mon père m'avait pas dit que j'avais gagné le prix, je comprenais rien, on m'a fait venir dans une salle, il y avait plein de gens, et puis j'avais mon anorak rouge et mon pantalon en élastique, là, pied de poule, et je dis à mon père, qu'est-ce qu'on fait là? Il me dit, tais-toi, attends. Donc j'attends, parce que quand même, c'était une époque où on disait pas à son père, attends, pourquoi tu me parles comme ça? Dis-moi pourquoi. Non, moi, il me disait, tais-toi, attends, j'attendais. Et d'un coup, on dit prix d'interprétation, Ariane Ascaride, et alors je comprenais rien. Et mon père me dit, lève-toi, va chercher le diplôme. Donc je me suis levée, c'était à Vichy, dans le théâtre de Vichy, et je suis allée chercher mon diplôme, et j'ai une photo qui est à mourir de rire avec tous ces messieurs en jaquette et tout ça. Et il y a cette petite fille qu'on prend pour un garçon avec son anorak, la photo, elle est comme ça. Mais le truc, c'était que quand vous gagnez un prix, vous deviez rejouer pour la soirée de gala. J'avais absolument pas envie de jouer. Donc je me suis fait payer une robe, des timbres, il m'a tout payé. Alors qu'il me faisait jamais de cadeau, il m'a tout payé parce qu'il fallait que je joue. Ça a été une petite vengeance assez extraordinaire. Mais bon, après, à l'âge de 12 ans, j'ai dit non, je veux plus faire tout ça, ça m'ennuie, je voulais sortir avec mes copines, enfin, faire des trucs de filles, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je fictionne, je sais pas comment on dit, en permanence la réalité. Je pars d'un truc qui est de la réalité et hop, j'invente. Tout le temps. Et donc là, un jour, toute seule, je suis allée m'inscrire au Conservatoire de Marseille, et voilà, en théâtre, j'ai rien dit à personne, et puis après, bon, je l'ai dit, puisque c'était assez difficile de pas le dire, parce que j'avais des cours, et j'avais 17-18 ans, et puis voilà. Et puis après, j'ai mené mes études en parallèle, parce que nos parents, pour ça, c'est vrai, on a tous fait des études supérieures, mes deux frères et moi-même, et que je savais que c'était important pour eux, et que ça, il n'était pas question de les décevoir à ce niveau-là. Et donc, j'ai fait mes études et je suis rentrée après au Conservatoire de Paris.
Mais des études donc de sociologie oui. À Marseille,
à Aix-en-Provence. J'ai fait mes deux premières années à Aix-en-Provence. Après, je suis venue à Paris, quand j'ai décidé de venir à Paris. Et j'ai fait à la Sorbonne et j'ai fini quand même à Vincennes. Ça, c'était bien.
Et en parallèle, donc, au Conservatoire de Marseille, il y a quelqu'un qui a été très important pour vous, c'est Mademoiselle Lamberton.
Ah ouais, Mademoiselle Lamberton. Je suis tellement contente de parler de Mademoiselle Lamberton à la radio, de lui dire merci, parce que c'est quand même elle qui m'a appris à marcher comme une fille, parce que je marchais comme un grenadier quand je suis arrivée au Conservatoire de Marseille. Elle m'a mis des chaussures avec des talons, elle m'a fait mettre des costumes avec des crinolines. Ça me semblait un truc insensé, et c'est elle qui m'a appris à bouger dans l'espace théâtral, à bouger sur une scène. Vraiment, c'est elle qui me l'a appris. Et elle était la féminité personnifiée, et elle était dévouée à ses élèves, mais à un point, c'est inimaginable, elle vivait pour ses élèves, et même moi, Parce que vous savez, il y avait des gens qui trouvaient que j'étais un peu populaire, quand même au conservatoire de Marseille. La bourgeoisie marseillaise est une bourgeoisie absolument immonde. Et j'étais un peu populaire. Et elle m'a toujours soutenue. Elle disait, mais vous allez voir, elle va y arriver, vous allez voir. Et après, effectivement, j'ai eu mes premiers prix de comédie classique, de comédie moderne, comme on disait à cette époque-là. Et je lui dois beaucoup. Et si elle m'entend, je l'embrasse très fort parce que c'est vraiment... Et parce qu'on est, je ne sais combien de générations d'acteurs, Daniel Mesguich, Christian Benedetti, moi-même, on lui doit beaucoup. On lui doit énormément. Mais c'est une perle. Elle avait des ongles. Elle avait des mains avec des ongles toujours bien peints. C'est tellement... Je regardais ça, ça me fascinait. Je me disais, j'arriverai jamais à avoir un truc pareil. Je ne suis jamais arrivée d'ailleurs, mais elle avait une forme de doigt que j'adorais. Voilà. Alors, vive Mademoiselle Lamberton, Irène de son prénom.
Et comment se retrouve-t-on un beau jour à Paris, au Conservatoire National d'Art Dramatique? Qu'est-ce qui pousse à tenter cette aventure? Et comment s'opère le passage, la transition vers un tout autre monde que celui d'où l'on vient?
Alors, pourquoi je suis rentrée au Conservatoire de Paris? D'abord, parce que j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai été reçue. Pas la première fois, hein. La première fois, je me suis plantée lamentablement. Mais la deuxième fois, j'ai été reçue à ce concours et je voulais entrer dans cette école parce qu'il y avait une personne très importante pour moi qui s'appelait Marcel Bluval. Parce que quand j'étais môme, chez ma voisine, parce qu'on n'avait pas la télévision, j'avais vu une émission d'un monsieur avec une casquette de marinier sur la tête qui venait parler d'un livre à lui qui s'appelait « Un aller ». Et c'était incroyable parce que ce monsieur, comment il parlait, je comprenais tout ce qu'il disait. C'était familier sa manière de parler pour moi. Et j'ai dit, je connaîtrais ce monsieur. Quand j'ai voulu tenter le conservatoire de Paris, je l'ai fait parce que j'ai su qu'il était professeur et que je voulais le rencontrer. Et puis, cerise sur le gâteau, dans ce conservatoire, il y avait un professeur qui s'appelait Antoine Vitesse, il y avait un professeur qui s'appelait Pierre Debauche, il y avait un professeur qui s'appelait Jean-Paul Roussillon. On a été vraiment gâtés, vous voyez. Et le directeur, qui était Jacques Rosner, qui était un homme... qui est un homme formidable et qu'on a emmerdé, mais c'est pas possible comment on l'a emmerdé. C'était tous des gens, enfin tous ces hommes-là, vous avez remarqué qu'il y a pas beaucoup de femmes, hein, mais tous ces hommes-là étaient des hommes, d'abord c'était des créateurs, c'était des gens qui étaient en action, c'était des professeurs qui en même temps faisaient des mises en scène, faisaient des trucs quoi, et qui avaient envie de faire entrer à l'intérieur de cette maison des jeunes gens, qui venait d'un autre monde que la plupart du temps les jeunes gens qui étaient reçus au conservatoire de Paris. D'où Jean-Pierre Daroussin, voilà, moi j'ai connu Jean-Pierre, on est rentré la même année, ou Alain Langlais qui est à la Comédie Française, Jean-Pierre était de Courbevoie, Alain il est de Nanterre, moi j'étais de Marseille, un autre ami qui s'appelle Patrick Bonnel, qui est l'ami d'enfance de Jean-Pierre qui était de Courbevoie, Pierre Bandret qui était fils de paysan suisse à Mutrux, petit village du canton de Vaud, je crois, j'espère que je dis pas une bêtise. On est arrivés tous comme ça, avec un imaginaire qui était différent. Mais c'est parce que c'est ces hommes-là qui ont voulu qu'il y ait des gens comme ça qui entrent. Et ça a quand même été une parenthèse, parce que depuis, on est revenu dans une espèce de ronron. Voilà, les gens se reconnaissent bien entre eux, si vous voulez. Et nous, on est arrivés là. Il y avait Charlie Nelson aussi. Il y avait François Clavier. Enfin, il y avait qui était dans la classe d'Antoine. Il y avait des gens comme ça. Ils avaient fait rentrer une population différente. Et ils étaient géniaux, ces professeurs, parce que, en fait, on pouvait passer d'une classe à l'autre. Ça circulait, quoi. Donc, on pouvait aller passer des scènes chez Antoine, on pouvait aller passer des scènes chez Marcel, chez Pierre Debauche. Quand même, Pierre Debauche, c'est lui qui fait qu'il y a un théâtre à Nanterre, quand même. C'est pas rien, quoi. Et Jean-Paul Roussillon, c'est quand même un des plus grands acteurs du théâtre français. Enfin, voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, pendant 3 ans, on a été là. Ces profs, en plus, ils faisaient des concours, ils faisaient des compétitions entre les classes, sans le dire. De temps en temps, il y avait dans le café à côté, les profs se réunissaient, ça discutait. Nous, on était comme ça, avec la bouche ouverte, grande comme ça, et on les écoutait parler théâtre, quoi. C'est génial. Et donc, ces compétitions faisaient que, il y avait une émulation. On travaillait Brecht, on travaillait Claudel. Antoine Vitesse m'a obligé à travailler Claudel, alors que je n'aime pas Claudel, je continue à le dire. Mais j'ai compris Claudel avec Antoine. Et je le remercierai jamais assez de m'avoir un peu poussé pour travailler ça.
En quoi la relation d'ailleurs avec Antoine Vitez était-elle différente de celle d'avec Marcel Bluval?
Antoine, c'était... J'ai toujours beaucoup de mal à parler d'Antoine parce que c'était tellement incroyable, ses cours. Antoine, c'est comme si on était... comment vous dire? Comme si on était au Collège de France, quoi. Antoine, il faisait en sorte que tout le monde devenait intelligent. C'était étonnant. Il nous parlait de choses... par exemple, mais comme moi, je lisais beaucoup, je me rappelle très bien d'une fois où il s'est mis à parler de Jules Vallès. Et moi, j'avais lu L'Enfant, Le Bachelier, L'Insurgé. J'étais la seule de la classe à connaître Vallès. Mais comment il racontait Vallès faisait que dès que les gars ils sortaient, les gars, les filles, dès qu'ils sortaient du cours, ils allaient chercher un bouquin de Jules Vallès. Ils faisaient qu'on lisait. Ils faisaient un travail. Par exemple, il y avait un cours qui était un cours sur le langage. Il arrivait avec leur journal. Et hop, il inventait des situations à partir des articles. Et on lisait les articles et il se passait des choses formidables. Antoine se servait de sa classe comme d'un laboratoire. D'un laboratoire dramaturgique, d'un laboratoire de création théâtrale. Donc ça donnait des choses formidables. Marcel, c'était de l'importance, chez Antoine aussi, mais de Marcel, de l'importance de faire entendre le théâtre pour transformer le monde. De notre responsabilité en tant qu'acteur, de faire entendre Bertolt Brecht ou d'autres comme ça, de l'importance de pas être simplement ceux qui avaient envie de se montrer sur un plateau. Non, c'était qu'on avait cette responsabilité-là d'aller parler, entre guillemets, aux masses. Et en même temps, Marcel, c'est la précision, c'est la rapidité, c'est l'efficacité. Et il faut y aller, quoi. Il faut se mouiller, il faut aller loin, quoi.
Vous dites que vous n'auriez sans doute pas pu continuer dans le métier de comédienne si vous n'aviez pas connu Marcel Bluval.
Absolument. Totalement. Parce que Marcel, c'est comme mon second père. En fait, on s'est rencontrés au conservatoire et puis il y a une très grande amitié. Vous savez, c'était quelqu'un, je le dis parce que ça arrive tous les samedis, quand Marcel, parce que Marcel, il tournait en même temps qu'il était professeur, donc ça faisait des journées dingo pour lui. Et donc, des fois, il pouvait pas venir faire cours, donc il faisait le cours le samedi. Donc le samedi matin, on avait un cours avec Marcel, et à la fin du cours, tous ces traînes savates qu'on était, parce qu'on avait, on était plusieurs à vraiment pas voir un rond, Marcel invitait tous les samedis toute sa classe au restaurant. Il nous faisait tous manger. Et il a continué, et Daniel Lebrun, Marcel Bluval et Daniel Lebrun ont été pour nous... ont été pour nous, Robert Guédiguian et moi-même, un soutien... inimaginable, toujours. Un soutien amical, un soutien professionnel. Marcel est toujours venu voir les premiers montages des films de Robert. Marcel et Daniel sont toujours venus voir ce que je faisais, ce que je jouais, même quand des fois c'était au fin fond de banlieue parisienne, ils ont toujours été là.
Qu'est-ce qui rapprochait la Marseillaise Ascaride du Parigot Bluval d'être enfant d'émigrés, une fibre populaire, le communisme?
Les deux, les trois. D'abord, effectivement, les accents différents. J'adore l'accent de Marcel, parce que c'est l'accent du 12e de Paris, c'est un pur accent parisien. Et puis, le mien, qui n'est pas du tout le même. Effectivement, j'ai toujours dit à Marcel que c'était mon âne Franck. Parce que pendant la guerre, Marcel, il est resté enfermé avec sa mère pendant plus d'un an et demi chez son professeur de piano qui les a cachés pendant toute la journée. Ils étaient dans une pièce, ils devaient pas bouger pendant que le professeur piano donnait des cours. Et regardez comme c'est rigolo, c'était sur le boulevard Soult quand il était caché. Et moi, quand je suis arrivée à Paris, je connaissais pas Marcel Bluval et on est allé habiter boulevard Soult. Et la troisième chose, c'est que... Marcel Bluval est un homme d'une intelligence remarquable, très grande, très fine et d'une analyse politique étonnante. Et donc, j'ai pu et je continue encore à discuter. Il m'est arrivé, par exemple, c'est les élections de 2002, c'est ça, hein, quand Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour, de courir le soir même chez Marcel et de dire « Marcel, qu'est-ce qu'on fait ?» J'avais besoin de le voir, j'avais besoin de parler. Et ce soir-là, j'ai vu aussi une chose que je savais, mais je ne mesurais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était que d'avoir vécu la persécution d'être juif. Et d'un coup, j'ai vu dans ses yeux quelque chose quand il m'a dit « ça revient ». Et ça, jusqu'à ma mort, je me battrai pour que ça ne revienne dans les yeux de personne.
Vous évoquiez tout à l'heure donc aussi votre autre professeur du conservatoire, Antoine Vitez. Mmh. Qu'est-ce qu'Antoine Vitez a révélé d'elle-même, de sa personnalité à la jeune fille que vous étiez alors?
Je crois qu'Antoine a pris assez vite la mesure de l'être complexe que j'étais. C'est-à-dire que j'arrivais avec, comme ça, une espèce d'énergie, une espèce de... Marcel m'appelait le bulldozer quand j'étais au conservatoire. Je roulais des mécaniques, quoi. Mon côté garçon manqué, j'avais toujours un point de vue et un point de vue politique et j'étais toujours là. Et en même temps, à l'intérieur, j'étais mais terrorisée. Et pour moi, pas légitime à l'intérieur de cette maison. C'est un peu dingue, mais c'était comme ça. Mais quand vous êtes issu de l'immigration, la légitimité, ça met des générations, tout simplement. Et c'est simplement, effectivement, Antoine s'est rendu compte que j'avais beaucoup de culture, que je connaissais plein de trucs, que j'avais lu plein de trucs, et que quand il parlait, parce qu'Antoine, à ce moment-là, il était au PC, ça parlait beaucoup politique dans ses cours, hein. Il voyait bien que j'allais vite, que je pigeais, et puis c'est pour ça aussi qu'il m'a forcé, ma légitimité, c'est effectivement le jour où il m'a fait travailler Claudel. Parce que quand j'ai passé la scène, quand passait une scène chez Vitez, tout le monde était terrifié, vous voyez. Puis si Vitez disait que vous étiez bien, d'un coup, tout le monde voulait travailler avec vous. C'est le principe des coups, hein. Et Antoine, à la fin de la scène, dit, bon, ben voilà. Vous voyez, là, Ariane, elle a pris un virage. Et c'est un virage important. Parce que Ariane, c'est Marthe. Là, c'est vraiment ça. C'est vraiment bien. Donc, ding, ding. Je devenais vraiment quelqu'un de bien, vous voyez. Cette légitimité-là qui m'a donné. Je pense qu'il était très intelligent et qu'il a bien senti. Il n'y avait pas de, vous voyez, Antoine, on se tapait pas sur l'épaule, hein. C'était pas comme ça. Et après, vous savez, il y a eu un truc qui s'appelle les 5 leçons d'Antoine Vitez. Et il y en a une, c'est moi, avec un camarade, Carlos Wittig, qui était sur la jalousie du barouillé. Et je suis très contente finalement, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Ça faisait 30 ans que j'avais pas vu ça. Et il y a un truc que les gens savent pas, c'est à quel point Antoine s'amusait quand il donnait des cours. Et on le voit là. Il invente, il s'amuse, ça le fait rire. Il se fait rire tout seul, des fois. Des fois, il se fait rire tout seul. Et nous, on pédalait un peu derrière, parce que lui, dans sa tête, ça allait très très vite. Et nous, des fois, on n'avait pas les tenants et les aboutissants. Mais il faut revoir les 5 leçons d'Antoine Vitez, parce que on voit un homme qui est en train de faire du théâtre, quoi. C'est ça qui est génial.
Aujourd'hui encore, dans votre travail, est-ce que vous vous dites parfois, qu'en penserait Vitez, que ferait Vitez?
De plus en plus. De plus en plus. Parce que je trouve qu'il manque beaucoup. Il manque énormément. Hein, c'est l'élitisme pour tous. C'est quand même lui, hein. Et c'était génial. C'était juste génial. Si on réécoute les émissions, hein, où il parle, où il dit effectivement, parfois, je fais des spectacles où pas tout le monde peut tout comprendre. Mais ce n'est pas grave. Et c'est ça qui est génial. Ce n'est pas grave, parce que peut-être ça leur donnera envie de revenir pour comprendre. Et peut-être ils iront voir un autre spectacle. C'est-à-dire que tous ces hommes-là travaillaient vers le haut, jamais vers le bas. Et ça, aujourd'hui, j'ai juste envie de dire ça. Pensons vers le haut, toujours vers le haut. Parce que le côté obscur, c'est tellement facile, hein.
Avez-vous été tenté vous-même par l'enseignement de l'art dramatique, par l'idée de transmettre à votre tour Ariane Ascaride?
Oui, je suis, et figurez-vous que j'ai passé un concours, je suis professeur de théâtre, professeur de conservatoire, j'ai jamais le temps de le faire, mais j'ai mon diplôme, ce qui avait fait énormément plaisir à mon père, parce que c'était dans un temps où je ramais beaucoup. Mon père trouvait que j'étais professeur de théâtre ou de tambour, ça aurait été pareil, mais j'étais professeur. Et donc, je suis professeur de conservatoire, mais j'ai jamais le temps de le faire. Oui, j'aimerais bien transmettre, mais je pense que je serais monstrueuse. Parce que je serais d'une exigence démoniaque. J'ai donné quelques cours au conservatoire de Paris, il y a 2 ans, Et je sais que, en fait, j'ai fait ce que m'avaient fait faire mes professeurs, ce que m'avaient demandé mes professeurs. Le premier cours, j'ai dit, quel est le dernier livre que vous êtes en train de lire? Qu'est-ce que vous avez lu dans le journal? Est-ce que vous regardez les infos? Il y avait un élève qui lisait un livre, personne n'a lu le journal, et personne ne regardait les infos. Et là, je leur ai dit, vous pouvez pas faire du théâtre si vous savez pas le monde dans lequel vous vivez. Et ça me venait de mes professeurs à moi.
Est-ce que des jeunes filles, des jeunes garçons qui veulent devenir comédiens viennent vous voir pour vous demander des conseils, votre avis?
Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Mais c'est un peu, chaque fois, je me dis, ça y est, ça sent le sapin, quoi. Je suis devenue une institution. Mais oui, ça m'arrive. Mais c'est vrai que je pense que mon discours, au départ, doit un peu les dérouter. Je le vois bien dans leur regard, les 5 premières minutes. Ils disent, mais attends, c'est pas du tout comme ça qu'on me parle dans les cours ou dans les machins comme ça. Et puis après, ça va, quoi. Mais j'ai juste envie de dire, quand on enseigne, quand on est professeur, moi j'ai beaucoup de respect pour les professeurs. J'ai fait un film qui s'appelle Les Héritiers, où je jouais un professeur, qui est d'ailleurs un professeur que je connais, qui est une femme absolument géniale, qui est la pédagogue dont tout le monde rêve. C'est une responsabilité énorme d'être professeur. Et c'est une responsabilité énorme d'être professeur de théâtre. Donc, ne venez pas porter votre amertume sur des jeunes gens qui viennent essayer d'apprendre quelque chose. Accueillez-les, écoutez-les, regardez-les, aidez-les. Mais n'essayez pas de leur faire faire ce que vous n'avez pas été capable de faire. C'est un peu dur, mais je suis désolée, il faut que je le dise.
Donc, à la fin des années 70, Ariane Ascaride, vous sortez du conservatoire. Que se dit-on quand on sort du conservatoire? Ça y est, je suis comédienne, à moi la gloire, ou plutôt, et maintenant, il faut manger, il faut travailler.
Oui, surtout que votre professeur Marcel Bluval vous dit, ouais, tes journées de sortie, c'était très bien, mais toi, ça ne marchera pas avant 40 ans. Hein. Et vous en avez 24. Et là, vous le regardez, vous dites, attends, mais ça veut dire quoi? Je vais rien foutre pendant... écoute, non, ça va aller, tu vas faire un peu des trucs comme ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es atypique. Et c'est le premier qui m'a dit que j'étais atypique, et après j'ai entendu ça, mais pendant des années. Maintenant, on dit plus que je suis atypique, on dit que je suis rare, c'est absolument la même chose. Mais bon, voilà, là, j'ai eu la chance que les choses prennent un bon chemin, mais je crois que c'était vrai, c'était compliqué, parce que pendant longtemps, j'ai eu une boue de gamine, et en même temps, j'avais à l'intérieur de moi une maturité, une espèce de densité, qui faisait que je pouvais pas jouer. Bon, d'abord, jouer jeune première, c'était pas possible, hein, parce que, à la fin des années 70, la jeune première, elle est pas du tout comme maintenant, hein, c'est la blonde, elle a les yeux bleus, et puis les rôles de fille, c'est encore beaucoup des potiches, hein. Et depuis 30 ans, les choses ont beaucoup bougé sur les rôles de femmes, parce qu'il y a eu beaucoup de réalisatrices qui ont fait changer ça et qui ont aussi influencé les réalisateurs. Mais quand même, encore et toujours, il faut se battre. Je veux dire, les jeunes actrices aujourd'hui, il faut qu'elles continuent à se battre. Donc, quand moi je suis sortie...
Oui, comment ça se passe pour vous, le métier au début, dans les premiers temps, sur les planches?
Alors, le truc, c'est qu'on avait fait avec mon frère, mon frère avait eu cette idée de faire du théâtre d'appartement. Nous sommes les premiers qui avons fait du théâtre d'appartement en France. C'est pour ça qu'on est dans l'anthologie théâtrale. Et donc, on avait fait ça tous les deux à partir de nouvelles d'Italo Calvino. C'est un truc qui a marché, mais c'était démoniaque. Tous les journalistes, quand ils ont su, ils ont voulu venir. Donc, on ne disait pas que c'était des journalistes, puisqu'on jouait chez les gens. Donc, j'ai vu des journalistes à ce moment-là, des très grands journalistes, des critiques français, qui se retrouvaient sur des canapés parce qu'on les présentait comme des animateurs qui se faisaient sauter par les enfants de la famille dessus. On leur faisait manger des tartes aux pommes parce que quand on avait fini de jouer, les gens voulaient absolument nous faire manger. On a eu des situations, mais dingo, on a créé ça dans les tours à Bobigny. C'était génial. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des commissaires de police, j'ai rencontré des professeurs, j'ai rencontré des chômeurs, j'ai rencontré des immigrés, j'ai rencontré des gens qui faisaient venir leurs voisins, leurs voisines, leur famille, et des fois des gens qui passaient pour sonner, pour dire bonjour, qu'on intégrait à l'intérieur du spectacle. Les gens, je leur ouvrais la porte, les gens disaient, mais je me suis trompée de porte, je leur faisais juste signe d'entrée, ils entraient, les autres leur faisaient, chut, tais-toi, et hop, ils rentraient dans l'histoire, et regardaient. Une fois, c'est un chat qui était tellement furieux que ses patrons l'avaient enfermé dans une pièce, qui est arrivé à passer, et qui m'a pissé sur mon manteau, et ça a été une horreur, j'ai dû l'emmener 3 fois au nettoyage, parce que j'avais un grand manteau d'Astrakhan, parce que ça se passait dans les années 50, c'est nouvelle. Et ça a été un succès fou. Donc, moi, je suis sortie en faisant ça. Après, il y avait le JTN, le Jeune Théâtre National. Donc, j'ai joué dans un Macbeth monté par Jacques Rosner avec Michel Bouquet, qui a été un Macbeth démoniaque. Vous savez que Macbeth est une pièce maudite, qu'il se passe toujours des choses. Ben, je peux vous dire que c'est vrai. Et ce pauvre Michel Bouquet, que je salue et pour qui j'ai énormément d'amitié, mais j'étais démoniaque moi aussi quand j'avais 25 ans, un jour on jouait au Bouffe du Nord, et au Bouffe du Nord, dans le sol, il y a des trappes. Et alors il y avait un décor, c'était fait plutôt mode 40, pendant la guerre, vous voyez ce Macbeth là. Et il y avait une espèce de bunker avec une ouverture centrale qui était montée sur rail, et donc ça allait en avant, en arrière, mais ça pouvait aussi pivoter. Et cette ouverture centrale, un jour, et il y avait donc les trappes qui étaient ouvertes dans le sol. Et cette ouverture centrale, un jour, Michel Bouquet devait la prendre. Il a pris l'ouverture centrale, c'était mal mis en place, et il est tombé dans la trappe. Il s'est rattrapé juste par le bout des doigts. Et ça m'a fait... Vraiment, c'est horrible ce que je dis, mais ça m'a fait hurler de rire. Mais hurler de rire, il aurait pu se tuer. Sincèrement, il aurait pu se tuer, mais je crois que j'étais pas consciente. Et des années plus tard, quand Michel Bouquet a joué avec Robert le promeneur du Champ de Mars, ma fille Valentine, qui me ressemble, faisait un tout petit truc comme un gag. Et elle vient le voir et elle lui dit « Ah bonjour, monsieur Bouquet, je suis la fille. » Il dit « Oui, oui, je sais, tu es la fille d'Ariane. Je me rappelle très bien du fou rire de ta mère dans Macbeth. » Il l'avait jamais oublié. Et moi aussi, je l'ai jamais oublié. J'ai un peu honte, mais il faut quand même dire les choses.
Ouais. Et puis, il y a eu la première expérience de cinéma avec René Ferret dans La Communion solennelle.
Et où ça a été un peu... Ça, le premier jour, mon premier rapport au cinéma était terrible parce que c'était un travelling. Je savais pas ce qu'était un travelling. Il fallait que je marche dans le travelling. C'est très difficile de marcher dans un travelling sans baisser les yeux. Et je me rappelle que... Bah, je ramais, quoi. Puis je savais pas qu'il fallait parler doucement. Moi, je savais rien. Et je tairais le nom de ce chef opérateur qui avait été extrêmement méprisant avec moi. Et ce jour-là, voilà, là j'ai commencé à comprendre que ce métier pouvait être aussi extrêmement cruel. Et qu'il l'est. Il l'est. Mais en même temps, c'était bien parce que ce film-là, ce film de René Ferré, s'est retrouvé en compétition au Festival de Cannes. L'année d'après, voilà.
Et dans la foulée, commencera avec Robert Guédiguian une aventure cinématographique assez unique, dont il n'y a sans doute pas d'équivalent, une aventure dont vous deviendrez le centre, la comédienne. Le premier film s'appelle Dernier été, ça se passe à l'Estac, et dans ce film, vous êtes Josiane. Et de tout cela, nous parlerons demain. Merci Ariane Ascaride.
Merci à vous.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alban Penaranda avec Ariane Ascaride. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Cyprien Creton, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.